Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Mission Impossible, c'est un peu le fil rouge de l'émission cinéma de ce matin, non pas que nous ayons choisi de faire une exception à nos critères de sélection habituels pour trois films issus de cette célèbre série, mais parce que représenter les trois thèmes des films de ce jour relève bel et bien de la Mission Impossible The Chosen. Pour le premier de Dallas Jenkins, téléfilm en cours de diffusion sur rien moins que la vie de Jésus. Au hasard, Balthazar de Robert Bresson, un film sur la figure du bouc émissaire incarné par un âne, tenez-vous bien, un âne. Et Andrei Rublev d'Andrei Tarkovsky, film sur le célébrissime peintre d'icônes dont on ne connaît rien de sa vie, bref, du grand art. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On prend un petit peu d'avance en ce début octobre parce que on va être bientôt mobilisé par le fameux congrès mission, puis après par le pèlerinage du rosaire. On s'était dit que c'était dommage de faire sauter l'émission cinéma, donc on prend un peu d'avance avec vous. Louis-Marie Soler, toujours producteur de l'émission cinéma N'oubliez pas l'ouvreuse, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bonjour Paul.
Vous êtes à combien de année là? 33?
Ça doit être un peu plus, ça doit être 35. La 35 ans l'ouvreuse.
35 ans l'ouvreuse. Paul Dima,
toujours jeune.
Toujours jeune, oui, et fringant.
Intervenant cinéma pour les Coteaux Pays. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous et à toutes.
Donc trois films. Le premier, ça n'est pas donc le film à l'affiche du prochain Ciné Parole, donc qui est ce ciné club que vous animez tous les deux en lien avec le cinéma l'ABC, pour ceux qui par hasard prendront cette émission pour la première fois. On donnera peut-être le programme pour le prochain Ciné Parole à la fin de l'émission. On a choisi donc une série, The Chosen de Dallas Jenkins. C'est une série donc américaine. The Chosen, c'est Les Élus. En français, les élus en l'occurrence, c'est les disciples de Jésus. C'est donc un téléfilm, une série américaine qui est en cours de diffusion et qui connaît un succès important. J'ai vu deux chiffres, plus de 150 millions de téléspectateurs pour l'instant, voire plus de 200 ou 250, traduits en une cinquantaine de langues. Et même Paul a trouvé ça pas mal, c'est dire. I'm preparing something to share with the world. These things will make sense to some, but not to others. I'm here to start a revolution. Donc c'est Our Lord, n'est-ce pas hein? Donc pour ceux qui passent, ça ne parlerait pas complètement anglais, on a décidé de ne pas aller plus loin. Alors c'est sûr que c'est du ricain, hein, à la bande-annonce, mais c'est quand même plus subtil que même que la bande-annonce ne le laisse paraître. Là en l'occurrence c'est le début, c'est la bande-annonce pour l'épisode 2. Alors cette série, bah, donc c'est une série sur les élus. Est-ce qu'il y a un angle précis, Paul? Ça raconte la vie de Jésus, mais beaucoup à travers le regard des apôtres?
Oui, ça met aussi un focus intéressant sur le contexte dans lequel se passe l'incarnation. Alors on voit Jésus qui est un homme parmi les hommes, qui fait effectivement des choses surprenantes, mais qui reste aussi discret. Et on sent que dans la volonté du réalisateur, il y a un projet de fidélité au texte évangélique, au biblique, au contexte socio-historique dans lequel ça se passe, même si on peut trouver que les costumes, par exemple, sont assez convenus et ressemblent pas forcément à ce que c'était à l'époque, pas littéralement, ça veut pas faire copie conforme, mais quand même, ça situe bien, Jésus n'est pas un blond aux yeux bleus, par exemple, ça c'est intéressant, on en a vu plein au cinéma, on est sûr qu'il n'était pas comme ça. Par contre, là, il y a une volonté de fidélité, une volonté de pédagogie, je disais aussi, parce que, mine de rien, dans les conversations, on fait comprendre le Sanhédrin, c'est quoi. Il n'y a pas d'explication, mais par les dialogues, on dit « Ah oui, alors lui, c'est un membre du Sanhédrin, Nicodème, par exemple. » Il y a des personnages qui sont complètement inventés, il faut bien. Hein, l'Évangile n'est pas un film sur Jésus, c'est des récits créés après la mort et la résurrection du Christ,
personnages,
qui reprennent...
Personnages et dialogues, en l'occurrence, là, inventés, bien sûr.
Eh bien oui, c'est ça. Comme disait Alain Resnais, pour faire vrai, j'invente. Et là, par rapport à un texte comme celui des Évangiles, d'abord, il y a 4 textes, il faut bien choisir. Ils ne disent pas tous la même chose de la même façon, surtout. Donc, là, le danger, ça serait de faire croire qu'il y a un seul récit possible. Mais les petits épisodes permettent d'échapper à ce jugement un peu hâtif, c'est pas comme ça, etc. On voit que c'est une série, ça veut être dans la logique des séries, et c'est pas inintéressant de faire des petites scènes qui permettent d'approcher.
Alors on a trouvé un réalisateur que Louis Marine ne connaissait pas, rien que pour ça, ça valait le coup de faire une émission, donc...
Mais c'est
Dallas Jenkins.
Dans les séries, ce sont plus des showrunners que des réalisateurs. C'est pas forcément un
showrunner, c'est-à-dire quoi pour les nuls?
Le showrunner, c'est celui qui est vigilant à ce que la série garde toujours le même ton et soit toujours dans le même fil conducteur. Après, pour chaque épisode, il peut y avoir un réalisateur différent. Ça, c'est pas important. C'est pas grave. Enfin, c'est pas important quand on a un bon réalisateur, c'est important. Mais le plus important dans une série, et quelle qu'elle soit, c'est le showrunner. C'est un terme américain, et ça existe pour toutes les séries, qu'elles soient américaines, françaises, n'importe quelle nationalité. Il faut quelqu'un qui garantisse l'homogénéité en fait de la série, et puis après des saisons qui vont suivre.
Donc on est à la 4e saison, sauf
erreur de ma part. Elle est 3 ou 4, je crois, elle est en financement, puisqu'elle a...
Financement participatif.
Oui, c'est la particularité.
Alors juste avant ça,
de cette série.
Ce Dallas Jenkins, donc, il avait fait, semble-t-il, un premier film, La Résurrection de Gavin Stone. Je sais pas qui était Gavin Stone, qui avait fait un flop au box-office, et puis après, il a surtout fait un court-métrage, Le Berger, c'est donc l'histoire des bergers à la crèche, qui lui a connu un vif succès. Derrière, on lui a proposé cette série.
Oui, c'est ce qu'il a fait, qu'il s'en est saisi. Alors, pour lui donner ce ton authentique, hein, mettons des guillemets, hein, et il reste fidèle au texte biblique, mais ils prennent quelques libertés créatives quand même, comme l'a souligné Paul, avec des personnages dont les histoires ne sont pas explicitement détaillées dans la Bible. Bon, on est obligé de broder, hein, et Dallas Jenkins révèle que les scénaristes, puisque c'est pas lui qui écrit les scénarios, consultent des rabbins messianiques ainsi que des théologiens évangéliques pour garantir l'exactitude biblique.
Rabbins messianiques, c'est des juifs dits illuminés, c'est-à-dire des juifs qui ont reconnu Jésus comme le sauveur.
C'est ça, oui. Voilà.
On peut dire, je sais pas si vous l'avez noté, petite anecdote, qu'il considère qu'il a reçu comme un appel, en fait, de Dieu à faire cette série. Paul, vous pouvez en parler, c'est-à-dire qu'il a presque entendu une voix, en tout cas c'est ce qu'il raconte.
Oui, alors ça a démarré par un flop, et il a été découragé. Il a fait un épisode sur, comme vous disiez, l'adoration des bergers, donc la nativité mais vue par les bergers, qui a eu un succès assez retentissant, et ils ont ouvert un crowdfunding, c'est-à-dire un appel à dons pour continuer la série. Et alors, le succès aidant, et ça c'est aussi très américain, l'argent arrive et il y a tous les moyens pour faire une série de qualité.
Même si là, c'est semble-t-il une première aux États-Unis, si j'ai bien compris, qu'une série télé ait un financement participatif.
Oui, 10 millions de dollars.
10 millions de dollars.
Qui représente, c'est ce qu'ils mettent dans les textes, que j'ai trouvé, 125 346 donateurs.
Donc il aurait reçu un message d'un personnage inconnu. Souviens-toi, ta mission n'est pas de nourrir 5000 hommes, mais seulement de fournir le pain et le poisson.
Oui.
Et puis après, il aurait entendu comme une voix en disant l'argent pour moi n'est pas un problème, ou un truc comme ça.
Oui, alors ça, c'est assez évangélique aussi. Hein, mais
pourquoi pas ?
Il a été pris par une sorte de, oui, c'est ça, d'appel, et on ne peut que le respecter. Il l'a mis en œuvre.
Alors, au regard des films dont on a déjà parlé, qui sont plus connus, donc Jésus de Zeffirelli, aidez-moi, ce dont on avait parlé, les principaux sur Jésus. Bref, en tout cas, au regard des plus connus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'intéressant, Paul ? Vous avez commencé à le dire.
Eh bien, c'est un feuilleton. Donc, ce sont des épisodes relativement courts, mais dans une série, c'est pas un feuilleton, c'est une série... Qui va développer plusieurs regards sur différents moments vécus par les personnages et par le Christ. Alors, le focus n'est pas forcément uniquement sur Jésus. C'est Jésus au milieu des hommes. Et les j'ai vu que quatre épisodes. Il y en a beaucoup plus. Et ça se passe à Capharnaüm. C'est un choix délibéré, mais qui est conforme. C'est-à-dire que la prédication de Jésus se fait en terre païenne. Et on voit bien que...
Il passe beaucoup de temps à Capharnaüm dans les Écritures.
Oui, bien sûr. Jésus était longtemps à Capharnaüm, avant de monter à Jérusalem. Mais on voit bien qu'il y a un choix qui n'est pas servile non plus. C'est-à-dire que ici, le réalisateur ou la série n'a pas pour projet de copier ce qui est écrit dans les évangiles. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il y a quatre organisations de récits différentes dans les évangiles. Ici, il n'y en a qu'une. Mais alors, il prend dans l'une et l'autre tradition des évangiles et il crée quelque chose de cohérent qui, historiquement, culturellement et même spirituellement, pour les chrétiens, tient la route.
Quid du Jésus, vous avez commencé à le dire, c'est pas le Jésus de Zeffirelli, où là c'est un blond un peu évanescent par moment quand même. Oui. C'est pas, j'ai retrouvé, c'est l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est
où là c'est un Jésus, on va dire, presque à l'italienne. C'est-à-dire, tac, on avance.
Oui, et puis révolutionnaire. Enfin, oui. Voilà. Ici.
Très humain, il a la tête, c'est plus proche en tout cas de ce qu'on peut imaginer être le visage de Jésus. Il est sémite.
Il est semblable aux hommes, pour reprendre un langage évangélique. Voilà. Il est semblable aux autres qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'il ne tire pas la couverture à lui, il se fait plutôt discret, mais en même temps, sa présence pose question. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on apprend à découvrir Jésus par les réactions sur ceux qui le rencontrent. Alors, on invente des choses, des fois on en rajoute, par exemple Saint-Pierre, Pierre le pêcheur...
Saint-Pierre c'était un bagarreur par exemple avant.
C'était un bagarreur, c'était quelqu'un qui filoutait un peu aussi avec l'occupant romain, parce qu'il avait des dettes, et il n'arrivait pas à pêcher bien, et son bateau devait être saisi parce qu'il ne payait pas ses impôts suffisamment. On voit Matthieu d'ailleurs qui lui réclame.
Il pêchait le dimanche.
Et puis il pêchait
le jour du sabbat.
Et en même temps, il espionnait des marchands qui faisaient du trafic le jour du sabbat. Et il les livrait aux Romains.
Moi, j'ai bien aimé aussi saint Matthieu. C'est vraiment le collecteur d'impôts. Enfin, je ne l'avais pas imaginé comme ça.
Oui, alors il était...
Le riche qui aime les sous et...
Oui, alors il était peut-être encore plus détesté par son entourage qu'il ne l'est dans le film. Parce que c'était quand même un salaud de collaborateur. C'est-à-dire qu'il prélevait des impôts
Mais là, il n'est pas assuré, il est un peu précieux. Quand il marche dans la bouse de vache, pour lui, c'est toute une affaire. C'est quand même... On a du mal à imaginer les apôtres aussi humains, quelque part.
Il est un peu chochotte, hein, pour tout dire. Et en même temps, il est servile parce qu'il s'arrange avec les Romains lui aussi. Et les Romains le chargent d'espionner en douce les faits et gestes de ces certains Pierre.
Voilà, en tout cas, c'est une série donc à découvrir. The Chosen, Dallas Jenkins, on peut la trouver, mais en sous-titrage français et normalement, grâce à Sage Productions. Connu de certains, une société de production française qui travaille à diffuser des films qui parlent de la foi chrétienne. Elle sera disponible en VF à compter de Noël prochain sur www.lefilmchrétien.fr.
Je peux dire juste un petit conseil. Si vous connaissez les évangiles ou si vous ne les connaissez pas, allez voir. Si vous les connaissez, comparez entre ce que vous voyez et ce que vous avez lu. Et vous verrez que vous allez découvrir des choses.
Allez, on fait une première pause. Ça n'est pas la musique de The Chosen.
Musique de The Chosen qui est composée par Matthew Nelson et Donna Zaltine. Et elle est bien américaine.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi matin, avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h, et Paul Dima, intervenant cinéma pour Les Cotopaïs. Deuxième film, c'est votre chef-d'œuvre humaniste du mois, Au hasard Balthazar, c'est donc de Robert Bresson. Ce n'est pas le premier film de Robert Bresson dont on parle. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Oui, c'est Balthazar.
Balthazar. Mon mari, comme tout est resté pareil. Chouette, un âne. C'est rapide. Moderne.
Cet âne est rétrograde et ridicule. Il nous rend ridicule.
Nous, nous n'avons plus rien. Le peu qui nous reste, la maison, le jardin, n'est même pas à nous. Papa a distribué son dernier sou, créancier.
Voilà ce qui arrive quand on met la probité et l'honneur au-dessus de tout.
Prêtez-le-nous.
Il a assez travaillé. Il est vieux et je n'ai plus que lui.
Rien qu'un jour.
Et puis c'est à ça. Les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire. Pas dans la réalité. La réalité, c'est autre chose.
Ils l'ont déshabillé, battu et enfermé à clé.
Il faut pardonner. À tous.
Balthazar.
À vous, il sera beaucoup pardonné à cause de vos souffrances.
Voilà, Au hasard Balthazar de Robert Bresson, c'est un autre monde, hein. on est repassé de l'autre côté de l'Atlantique. Je sens que Louis-Marie respire à nouveau.
N'exagérons pas.
C'est donc l'histoire de la vie d'un âne qui s'appelle Balthazar, en heureuse compagnie au début avec une certaine Marie, petite fille originaire d'ailleurs dans le film du Pays Basque. Cet âne, en fait, on suit un parcours bien douloureux. Les parents de cet enfant ont une vie qui se complique. Il est racheté par d'autres qui le maltraitent. Et puis on suit un peu les maltraitances de cet âne comme un effet de miroir. Je voulais que l'âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l'humanité, aurait écrit Robert Bresson. Comment vous nous présenteriez un peu plus l'histoire, Paul Dima?
C'est les tribulations malheureuses d'un bouc émissaire qui révèle toutes les turpitudes des êtres humains et de la société. Cet âne, arraché dès sa tendre enfance des mamelles de sa mère, va aller de servitude en servitude, maltraité, battu, un peu même torturé. Et derrière ce parcours, on voit toute la noirceur possible de l'âme humaine et de la société, comme je disais. Et là, Bresson a été tout à fait avant-gardiste de se servir de, non pas de la cause animale, comme on dirait aujourd'hui, mais qu'est-ce que révèle le rapport de l'homme à l'animal de sa propre existence, de ses propres assises. Est-ce qu'il maltraite? Est-ce qu'il respecte? Et il en est de même pour le personnage de Marie. Hélène et Marie se rejoignent quelque part. Marie aussi est bafouée, dégradée. Et elle est soumise aussi comme l'âne, mais l'âme est censée ne pas ressentir la douleur, ce qui n'est plus du tout dans les représentations d'aujourd'hui. Mais il continue son chemin misérablement. Et en cela, Bresson dit c'est la figure de la sainteté.
Silencieux aussi, comme un âne.
Silencieux. Hein, enfin, oui, sauf qu'il brette de temps en temps quand même. Ouais.
Surtout quand il se fait cogner, oui.
Oui, il crie quand même. Hein. Mais il a choisi, Bresson, un petit, quoi, un anti-héros, C'est un héros ? Non, c'est un anti-héros. Il est ridicule, cet âne. Quand on le prend, ça, c'est la réputation de l'âne. On dit un âne batté, celui qu'on bat. On mettait un bonnet d'âne hein, aux élèves dans les écoles quand ils ne faisaient pas convenablement leur travail. Il est ridicule, rétrograde. Il n'est pas moderne. Il faut pas oublier que l'action se situe dans les années 60. On est dans la deuxième partie des années 60. Et c'est
1966.
C'est les 30 Glorieuses. C'est le moment où on découvre où la France est dans une courbe ascendante à tous les points de vue économiques, et prendre un âne pour héros, c'est tout prendre à rebours, parce que c'est l'époque des premiers, on consomme à l'époque, les signes de consommation importants, et il y a la mobylette qui apparaît, le vélo moteur, le tracteur, la radio, les transistors, enfin et l'âne, il est aux antipodes de tout ça, C'est une forme, finalement, au hasard Balthazar, c'est aussi le document d'une époque. Ce récit initiatique, l'âne est le héros, et la jeune fille est le double de ce héros. La jeune fille étant Marie.
Et au hasard Balthazar, ça vient d'où ce titre ?
Balthazar, c'est incontestablement, c'est le nom d'un des rois mages. Et au hasard, on suit les pérégrinations de cet âne et les mains par lesquelles il est passé, les propriétaires par lesquels il est passé. Est-ce une forme de hasard, peut-être, oui.
Vous nous avez parlé plusieurs fois de Robert Bresson, c'est peut-être l'occasion de nous redire quelques mots, de continuer à nous dégrossir, puisque c'est aussi l'intérêt de cette émission.
C'est un grand cinéaste français qui a marqué le cinéma français, et en 13 films, finalement c'est peu, mais en 13 films, quand même, il a accumulé les récompenses et les hommages. D'ailleurs, à propos de ce film, Godard, qui épousera l'actrice principale, Anne Wiazemski, qui sera sa femme pendant 3 ou 4 ans, dit à propos du film, c'est un film que devraient aller voir les gens qui vont voir d'habitude les films de Chaplin ou les films de Tati, les gens qui vont une fois par an au cinéma. Ce film, c'est Le Monde. En 1h30, on voit le monde depuis l'enfance jusqu'à la mort, avec tout. Il trouvait ça absolument merveilleux. Oui, c'est ça. Le cinéma de Bresson, c'est précis. Rien n'est laissé au hasard.
C'est souvent, sauf erreur de ma part, vous nous disiez que c'était souvent des acteurs amateurs. C'est le cas aussi là ou...
Oui, toujours. Il a pris l'habitude d'avoir des modèles, comme il les appelait. Parce que comme ça, comme il ne savait pas jouer la comédie, il pouvait pratiquement faire ce qu'il voulait. C'est depuis, le journal d'un curé de campagne, oui, qu'il a décidé de ne plus d'utiliser le moins possible des acteurs des professionnels. Et il est bien lui en a pris, puisqu'il a collectionné les prix. Hein. Entre le prix de la mise en scène à Cannes, le grand prix de la création, le prix du jury, toujours à Cannes, l'ours d'argent. En fait, il a collectionné les récompenses.
On avait parlé de Mouchette aussi, hein.
Oui, Robert Mouchette. Bresson.
C'était un peu aussi une figure comme ça de
alors,
de bouc émissaire.
Aussi bien, aussi bien dans le journal d'un curé de campagne que dans Mouchette et que dans Au hasard Balthazar, les personnages principaux sont des losers, sont des gens mis sur la touche, des gens qui ne sont pas pris au sérieux, mais ce sont eux les saints. Au moins dans le regard de Bresson, c'est-à-dire que c'est dans la faiblesse que se manifeste la présence de Dieu. Ils sont habités, et ils sont des mystiques dont tout le monde rigole, quoi. Et c'est eux qui sont dans le vrai. Et ceux qui rient se perdent eux-mêmes en le faisant, et ça c'est très fort.
Louis-Marie, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, que...
Il nous reste un tout petit peu de temps, donc oui, allez-y. Ben, j'ai pas d'extrait à vous servir, parce qu'il y a quand même beaucoup de silence. Hein.
Finalement, le final du film est extraordinaire, parce que l'humanité, on la trouve dans la mort de l'âne. On ne dévoile pas, on ne spoil pas, comme on dit maintenant, en révélant que l'âne va mourir, puisqu'on suit en fait toute sa vie. Et c'est la façon dont il meurt et la façon dont il est entouré. C'est étrange et c'est remarquable d'humanité. C'est des moutons qui sont là. Et c'est des moutons qui rendent ce moment moins dur, moins difficile pour lui. Il n'y a que Bresson qui est capable qui était capable de tourner des scènes comme ça.
C'est presque un chef-d'œuvre spirituel, à vous entendre.
Ah, c'est un chef-d'œuvre spirituel.
L'âne, évidemment. C'est...
Et oui. L'âne, d'ailleurs, quand Jésus rentre en triomphateur à Jérusalem, avant d'être arrêté et exécuté, il monte sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire, pour dire la grandeur de Dieu, il ne monte pas sur un cheval de combat. Il est sur un petit ânon. Et ce petit ânon, ici, meurt au milieu des moutons. Et c'est, sans nul doute pour Bresson, un clin d'œil, enfin un lien avec l'agneau mystique qui meurt en versant son sang, mais qui ouvre l'intelligence des Écritures. Et on retrouve ça aussi dans Mouchette. Quand elle a été abusée et tout, et à un moment, à la fin du film, elle veut faire signe à quelqu'un qui passe sur son tracteur, qui ne la voit pas et ne s'arrête pas, et elle roule dans la rivière ou dans l'étang, et suicide ou pas, on ne sait pas, c'est ambigu, mais à ce moment-là, retentit l'Alléluia de Handel. Elle est accueillie dans les cieux.
Voilà, Au hasard Balthazar de Robert Bresson, donc à voir, magnifique film. On va faire une deuxième pause avant de parler du dernier film de ce jour. C'est donc le film s'appelle Andrei Roublev d'Andrei Tarkovsky. Et c'était donc une gageure que de faire un film sur ce peintre d'icônes, puisqu'on ne sait très peu de choses sur lui. La pause musicale, Louis-Marie, c'est...
Ben c'est la sonate pour piano numéro 20 de Schubert qui rythme le film de Bresson.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma, normalement de début octobre, mais on avance un petit peu. avec toujours Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes-au-Païs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Tous les deux animateurs donc, d'un ciné-club, on donnera les infos pour la prochaine rencontre, ça sera le 12 octobre prochain, ça sera La Traversée de Florence Miaille, c'est comme ça qu'on prononce ?
Oui.
Merci chef. Andrei Roublev, donc d'Andrei Tarkovski. Bande annonce en russe.
Bon, bah oui.
On va voir combien de temps on tient.
Долго так еще будет. Послушай, что же такое делается?
За грехи наши и зло человеческое облик принял.
Voilà, là aussi, on change de continent, non, mais en tout cas, c'est une toute autre ambiance. Alors donc, l'histoire, c'est donc l'histoire de ce peintre d'icônes, donc Andrei Roublev, qui a bel et bien vécu, peintre d'icônes russe, qui était donc un moine, qui a vécu aux environs de 1360 jusqu'à 1430, dans une période troublée de l'histoire de la Russie. C'est donc au Moyen-Âge. Alors c'est un film long, hein, c'est 2h50, c'est ça hein ?
3h05.
3h05, pardon. Et donc c'est une série de tableaux à partir en fait de certaines de ces icônes. Et on suit donc au milieu du Moyen-Âge, non seulement donc Andrei Roublev, mais d'autres personnages, je vais vous les laisser les présenter, Louis-Marie, et puis tout le questionnement, on va dire, religieux et artistique de cet homme, qui, vous nous expliquerez, on va dire, avait de l'avance, quoi. Louis-Marie Solaire, peut-être les personnages.
Les personnages autour de Roublev, il y a ses petites mains, qui vont l'aider, hein, parce que de toute façon, au départ, c'est pas lui, vous l'avez dit dans le résumé, c'est Théophane le Grec qui l'engage pour faire un tableau.
Non, hein, je ne l'ai pas dit, mais merci de votre élégance.
Le jugement dernier est dans une cathédrale de Moscou.
De Moscou.
Moscou. Parce qu'on connaissait la réputation de peintre de Roublev. Et avec eux, différentes personnes, parce qu'évidemment, même Michel-Ange, quand il a fait le plafond de la chapelle Sixtine, il n'était pas tout seul. Mmh. Et eux, c'est de la même façon, ils ne sont pas tout seuls. C'est des gens autour d'eux. Et on va voir là qui, un jeune fondeur de cloches. Et puis, d'autres moments, il va y avoir d'autres aides avec eux qui vont amener à ce résultat assez extraordinaire. Si extraordinaire et troublant qu'il va renverser un peu la vie de Roublev. Mais la vie de Roublev, vous l'avez dit, est méconnue. Et en fait, il a beaucoup imaginé par rapport à ce qu'on pouvait savoir sur lui, Tarkovski. Et il a été aidé en ça par son co-scénariste qui s'appelle lui aussi Andrei, qui s'appelle Konchalovski, et qui lui aussi est devenu un grand réalisateur russe.
L'histoire, donc c'est une espèce de série de séquences donc, autour de la production d'un certain nombre d'icônes avec un prologue et un épilogue. Paul Dima.
Alors, le prologue est assez intéressant d'ailleurs. On voit la populace, je dirais, dans une hutte et il y a quelqu'un qui fait un peu un numéro de cire qui raconte des boniments, tout le monde se moque de lui, mais bon, c'est l'artiste qui dit aussi des choses, mais devant des gens très, très rustres, enfin très bruts de décoffrage. Et puis, il y a une montgolfière qui est chauffée et qui s'envole, et la caméra prend de la hauteur, si j'ose dire, et survole toute cette espèce de gens très terre-à-terre tout d'un coup. Et tout le film est attaché à la glaise, à la boue, c'est-à-dire que On dirait que les humains sont un peu comme des fourmis sur le sol. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de... Voilà. Et ça, c'est une préoccupation de Tarkovsky qui veut rendre compte de la vie de ce peintre André Rublev, très, très croyant, un peintre d'icônes, écrivain d'icônes, on ne peint pas une icône, on écrit une icône, qui se désespère un petit peu de cette humanité qui est embourbée, au sens propre du terme, et incapable de s'élever. Mais Sonar a cette fonction-là de dire la transcendance. Et je ne sais pas si on peut parler maintenant de l'épilogue. Mais...
Alors peut-être, moi, j'avais une question, j'ai vu, on prépare l'émission, j'avoue que j'ai pas regardé le film, hein. Enfin j'ai regardé des passages, hein, mais bref, je ne l'ai pas regardé en entier, que André Rublev était aussi entré en conflit avec un peu le monde orthodoxe de son époque, et donc c'est un moine qui, quelque part, on suit un chercheur de Dieu, un chercheur de vérité, il y a toujours des conversations avec son binôme là, qui est Kirill, ou qui est Théophane, ils sont toujours deux, hein, Louis-Marie, c'est ça?
Oui.
C'est Kirill, en l'occurrence, hein. Il cherche Dieu, on a l'impression qu'il cherche quelque part le vrai visage de Dieu en même temps qu'il peigne, etc.
Il est tourmenté, ce André Rublev. Il est tourmenté et il déroute parce qu'il a toujours une question ou un comportement qui n'est pas attendu par les autres, mais parce qu'il est en quête d'absolu. Et il pose des paroles et des gestes. On se dit, mais qu'est-ce qu'il cherche là? Enfin, où il va?
Oui, c'est...
Louis-Marie Soler.
Rublev, c'est ça, je parlais du fondeur de cloche, c'est justement à son contact qu'il va se rendre compte qu'il n'est qu'un instrument de Dieu. C'est là il se rend compte que s'il a ce don, ben c'est pour servir Dieu. C'est pas... Il n'y a pas quelque chose de trop emprunt de ce que pourrait être d'une réalité, de quelque chose de concret. Pour lui, c'est plus grand, c'est plus fort que tout ça. Et c'est peut-être pour ça que Tarkovsky, le spectateur, il a du boulot quand il regarde son film. Hein. C'est-à-dire qu'il est pris dans ce maelstrom d'images et tout, avec ce personnage assez extraordinaire. Vous parlez de mysticisme, il y a tout ça.
Et puis une espèce de grande fresque historique entre
voilà,
lui aussi.
On traverse tout à la fois l'histoire de la Russie, les affres de ce croyant fort et puissant qui est Rublev, et puis ce qu'il a laissé, ces icônes. Écrite, comme le soulignait Paul, c'est effectivement un personnage dont on pouvait faire un film. Tarkovsky s'en est saisi. Ah, c'est un film qu'on mérite aussi, je le disais. Il faut le voir.
Quoi. Tarkovsky, en deux mots
Tarkovsky, alors, lui, c'est un des maîtres du cinéma russe. Et d'autant plus qu'alors, on parlait de...
On avait déjà parlé d'un film.
Oui.
Et on avait... on n'avait pas parlé du Stalker, si Stalker, je crois.
Si, Stalker, oui.
Stalker, ouais, c'est oui, c'est ça.
Et lui, c'est seulement en 7 films. Hein. Mm. En 7 films. Hein. Bresson, c'était en 13. Lui, c'est en 7. Et il a commencé dans la Russie soviétique, l'ère soviétique. Et il a eu, même pour Rublev, il y a partir avec la censure. Hein, parce que le film est...
Il y a une projection devant Léonid Brejnev. Et puis, à un moment, il est parti.
Brejnev. Oui, et entre le moment où le film a été fini, produit, et le moment où il est sorti, il s'est passé 2 ans hein, avant qu'on puisse le voir... au cinéma. Et les 2 derniers films qu'il a réalisés, donc le 6e et le 7e, il les a fait hors de Russie. Il est parti parce qu'en Russie soviétique, il ne pouvait plus tourner. Il était banni. Néanmoins, devant la grande école de cinéma moscovite, il y a sa statue.
Paul Dima, vous avez commencé à le dire, mais pourquoi c'est un chef-d'œuvre ?
Alors c'est un chef-d'œuvre parce que c'est d'une densité assez incroyable, même si ça dure 3h05. Chaque plan est travaillé, éclairé, on l'a dit. Et y a aussi, dans le film, Andrei Rublev, c'est aussi Andrei Tarkovsky. C'est-à-dire que... C'est Andrei Rublev, c'est l'artiste qui est dans le questionnement philosophique, métaphysique, de quelqu'un profondément croyant, qui est convaincu que son art doit être mis au service du peuple pour s'élever vers Dieu.
Et le cinéma Tarkovski, c'est ça?
Alors, parce le cinéma Tarkovski...
Au service du peuple, comme a dit Louis-Marie, il faut quand même...
Je ne sais pas si c'est au service du peuple, mais au service d'un éveil à une forme, à une transcendance. Alors, comme disait Louis-Marie, il y a du travail à faire, parce que...
C'est un peu labyrinthique, presque,
oui,
les films.
Oui,
hein, c'est
toujours.
Oui, 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 il faut que le spectateur, face à un film de Tarkovski, il peut pas ne pas faire quelque chose. Il est obligé. Alors, ça paraît...
C'est ce qui explique peut-être que Brejnev a mis du temps à sortir. C'est qu'au début, il s'est dit que...
c'est peut-être pour ça. Mais on trouvait... Parce que quand même, le film, il peut être lu de différentes façons. Une résistance contre l'oppression étrangère, oui. Puisque dans le film, il y a l'invasion des Tatars.
Des Tatars, oui.
C'est ça, il ne faut pas se mélanger. Et puis, il y a un éloge du travail collectif, ce qui était l'Union soviétique, la fonte de la cloche. Ils sont tous ensemble et on va... faire la cloche, quoi. Enfin, il y a tout ça qui pouvait convenir, et d'ailleurs c'est pour ça que finalement le film est sorti, à ce qu'était le régime soviétique de l'époque, mais il y avait des sous-titres, quand on voyait entre les images, on peut dire ça comme ça, il y avait autre chose que
une contestation très forte.
Voilà, que l'apologie du communisme.
Oui, oui.
Paul Dima, vous vouliez nous parler du prologue? Non, de l'épilogue, pardon.
Alors, l'épilogue, dans tout le film, on est en noir, en image noir et blanc, et l'épilogue advient la couleur avec l'icône. Et cet épilogue vient lorsque Andrei Rublev voit qu'un jeune est capable de mobiliser la foule et de faire fondre une cloche, qui est donc l'appel à la prière, voilà, une cloche qui est magnifique. Il a convaincu tout le monde qu'il avait le secret pour faire cette cloche, et avec cette cloche s'ouvre un élan vers le haut. Et en fait, le jeune avoue après que son père ne lui a pas révélé le secret, mais que sa foi dans cette œuvre d'art, qui est une cloche, ouvre à la transcendance.
Eh ben c'est un beau film à voir, en tout cas ça vous donne envie. Je rappelle les trois films donc de cette enfin le premier donc c'est un téléfilm, The Chosen, c'est donc de Dallas Jenkins, on peut trouver ça sur internet, et donc bientôt en français sur lefilmchrétien.fr, ça sera donc à Noël. En attendant, Au hasard Balthazar, c'est donc de Robert Bresson, et Andrei Rublev d'Andrei Tarkovski. Merci beaucoup. On peut dire aussi donc que le prochain Ciné Parole, votre Ciné Club, ça sera le 12 octobre prochain, c'est un mardi à 14h30, et ça sera donc le film La Traversée de Florence Mihai. Vous pouvez en dire deux mots puisqu'il nous reste deux minutes.
Florence Mihai est une artiste peintre qui s'est lancée dans le court-métrage, et La Traversée, c'est son premier long-métrage, et vraiment un film extraordinaire. Elle dit que c'est pas un film d'animation, mais c'est un film d'animation, mais c'est de la peinture animée, et c'est bien de la peinture animée, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, et rendez-vous le mois prochain à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.